Radio Okapi.
Diplomatie en Afrique centrale, rencontre hier à Kinshasa entre le chef de l'État congolais et quelques autorités congolaises avec le président de la commission de la CEAC. Au menu de la rencontre, la question de la gestion efficiente de la transhumance en Afrique centrale. La RDC est concernée notamment avec la présence dans les provinces de la Grande Orientale des éleveurs nomades Mbororo armés et qui déstabilisent régulièrement les zones de la RDC où ils se sont installés de manière irrégulière. On parlera également dans ce journal de la crise au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central avec l'indignation du cadre de concertation de la société civile. Deux groupes de députés provinciaux se disputent autour du maintien ou non en fonction des membres du bureau de cet organe. La société civile rappelle à tous que cette situation fragilise le bon fonctionnement des institutions et freine le développement du Kasaï central. Il sera question aussi vers la fin de ce journal du don de sang en RDC. Le pays a besoin d'environ 1 million de donneurs de sang pour sauver des vies. Estimation donnée par Dr Liliane Bouiza, directrice au Centre national de transfusion sanguine. L'invité de la rédaction a parlé en marge de la journée mondiale de donneurs de sang célébrée le 14 juin. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noéla Luzitu Kabambi. La CEAC et la RDC engagées pour la gestion de la transhumance en Afrique centrale. La gestion efficiente de la transhumance en Afrique centrale a été au centre des échanges hier mardi entre le président de la commission de la CEAC et quelques autorités congolaises, parmi lesquelles des ministres, dont celui de l'intégration régionale. Gilberto da Piedale Verissimo, président de la commission, a indiqué auprès de ses hôtes que depuis quelque temps, la transhumance est utilisée dans la sous-région à des fins criminelles, notamment le trafic d'armes. C'est ainsi qu'il a été conduit auprès du président Félix Tshisekedi afin de lui présenter la démarche initiée par les chefs d'État et des gouvernements de la CEAC. Billy Yvan Lutumba.
La volonté des chefs d'État est d'organiser une réunion de haut niveau en RDC pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Gilberto da Piedad Verissimo.
On a rencontré les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale. Les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance, on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion en principe du 16 juillet au 19.
Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux en RDC, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que se poursuivent les travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation. Précision avec Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale.
Ce système a été dénommé le Mbororo. Il y a plus ou moins trois pays de l'Afrique centrale, la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun. Et nous avions dit, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CAC.
À propos justement de cette transhumance en mission dans le territoire de Nyangara, dans la province du Haut-Uele, le commandant de la troisième zone de défense a appelé jeudi 12 juin les éleveurs Mbororo à se cantonner dans la localité de Nambia en vue de leur identification. Le lieutenant général Pacifique Masunzu, lors de cette mission, exhortait la population et plus particulièrement celle du territoire de Nyangara à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour assurer le succès de cette opération.
En Ituri, cinq miliciens du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP neutralisés et cinq autres capturés, ainsi que des armes et des munitions récupérées par les FRDC. C'était hier dans le territoire de Djougou, durant les combats entre le groupe armé CRP et les FRDC au village Nogo. D'après le porte-parole de l'armée en Ituri, les victimes sont tombées dans une embuscade des militaires qui étaient en patrouille dans la zone. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de Martial Kizabiamungu.
Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, lieutenant général Louboyanka Chamadjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous les commandements du gouverneur militaire, lancent un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabilisation la région lakiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur.
Toujours en Ituri, plus de 25 000 personnes vulnérables bénéficient depuis lundi d'un appui financier pour des activités génératrices des revenus dans le territoire d'Arou. C'est dans le cadre du programme de stabilisation de l'Est pour la paix, financé par la Banque mondiale. L'objectif de cette action humanitaire est de garantir l'autonomisation des bénéficiaires appauvris par la guerre, précisent les initiateurs. Isaac Raymond.
Les bénéficiaires de ces projets dénommés transferts monétaires inconditionnels mis en œuvre depuis 2022 sont des déplacés de guerre, des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Ils sont venus des différentes entités, Adja, Apinaka, Ofaka, Odra, Achinia, Adobi, Umbi Anzi et Ndiunga. Charles Mapoko, le chargé des transferts monétaires de ces projets, précise que l'objectif est d'assurer l'autonomie financière de ces personnes et d'améliorer leurs conditions de vie à travers des activités génératrices de revenus. L'une des bénéficiaires, Pascaline Jidirou, qui vit avec handicap, exprime sa satisfaction.
Je suis une enseignante victime de fractures au pied. Oui, je suis très contente parce qu'autant d'années, on n'a rien eu. J'ai été fracturée et puis j'ai suivi les soins médicaux suite à ça. Et puis j'ai élevé aussi les petits poussins, hein, les poules à base de ça.
Les autorités locales et les acteurs de la société civile plaident pour que ces projets s'étendent à d'autres personnes affectées par les conflits armés en Ituri et qui vivent dans des conditions difficiles.
Parlons à présent de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. Des tirs nourris ont été entendus hier dans la soirée au quartier industriel, commune de Kampemba à Lubumbashi. Bilan, 2 morts. Une situation qui a créé la panique dans les quartiers environnants avant que les forces de sécurité et de la défense ne rétablissent l'ordre. Jean Gandou.
Nos sources renseignent qu'il s'agit de bandits interceptés non loin du poste avancé des militaires dans les encablures du dépôt d'armes situé au quartier industriel dans la commune de Kampemba. Juste après, il s'en est suivi un échange de tirs nourris. Le bilan fait état de 2 morts, dont un militaire et un civil. On signale également 2 blessés, parmi lesquels un militaire qui a reçu une balle dans la tête et un civil touché à l'épaule gauche. Les 2 sont admis dans un hôpital de la place. D'après nos sources, les premiers éléments de l'enquête révèlent que ces bandits sont venus les uns de Kakanda et les autres de Fungurume dans la province du Lualaba. Ils étaient chez une dame pour des rites appelés Bizaba avant d'aller opérer. D'après ces rites, ils ne pouvaient pas être atteints par des balles en cas d'attaque. Leur objectif était de dévaliser une banque dont le nom ne nous a pas été précisé. Tous étaient à bord d'une voiture de marque Toyota arrière de couleur noire qu'ils ont abandonnée sur place. Leur nombre et le commanditeur de leur mission pourraient être connus à l'issue de l'enquête, renseigne un officiel contacté. Et nous apprenons qu'il y aurait aussi d'autres arrestations toujours en rapport avec ce dossier.
Au Kasaï central, le cadre de concertation de la société civile s'indigne des tensions à l'Assemblée provinciale après une vive altercation lundi entre 2 groupes de députés au siège de cet organe délibérant provincial. D'un côté, 16 élus affiliés à l'UDPS Tshisekedi et ses partenaires et de l'autre, 18 députés refusant d'être dictés par le parti présidentiel, décidés d'organiser une plénière consacrée à l'examen des pétitions visant 4 membres du bureau. Cette situation fragilise le bon fonctionnement des institutions et freine le développement, rappelle la société civile. François Kadima nous en parle.
Les députés proches de l'UDP Tshisekedi, accompagnés de militants, ont investi lundi le bâtiment de l'Assemblée provinciale afin d'empêcher l'accès à la salle de débat aux parlementaires opposés. Malgré cette tentative de blocage, les 18 députés ont réussi à entrer par une autre voie avant d'être rejoints dans l'hémicycle par leurs adversaires dans une atmosphère de chaos marquée par des destructions de mobilier. Face à cette impasse, le rapporteur adjoint s'est appuyé sur les règlements intérieurs pour déplacer la plénière vers la salle de réunion du gouvernorat. Lors de discussions, 3 de 4 membres du bureau concernés, le vice-président, le rapporteur et le questeur, ont annoncé leur démission. En revanche, le président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukusa, a été maintenu à son poste, la pétition le visant ayant été rejetée. La société civile locale, qui s'indigne, recommande aux députés d'aplanir leurs divergences. Jean-René Chimanga revient ici sur ce qui est envisagé si cela n'est pas fait.
Au cas contraire, nous allons nous évertuer pour solliciter du chef de l'État la dissolution de l'Assemblée.
Déjà, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a convoqué à Kinshasa le bureau d'âge installé par les 16 députés minoritaires ainsi que les membres du bureau destitué. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans le chapitre de la justice, les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, forces et faiblesses. C'est le thème d'une conférence débat organisée hier mardi à Kinshasa par le cabinet Kabengela Ilunga à travers l'école de la légalité. Devant plusieurs juristes, étudiants en droit et députés, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga a passé en revue quelques arrêts de la Cour. Il a fait un plaidoyer dans le sens d'inviter les juges constitutionnels à prendre en compte les observations scientifiques ainsi faites afin d'améliorer la justice constitutionnelle. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons passé en revue les arrêts comme Erconst 1272 du 4 décembre 2020 où la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. D'après nous, la Cour aurait dû déclarer cette requête-là irrécevable parce que c'était une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre une décision déjà rendue. Nous avons également passé en revue Erconst 1800 du 22 juillet 2022 où nous pensons que la Cour a bien raisonné, a assumé sa compétence, contrairement à la position qu'il avait prise en 2020, de censurer tout acte juridictionnel qui met en difficulté la Constitution. Quant au volet répressif, nous avons reproché à la Cour le fait d'avoir appliqué les sanctions qui ne sont plus démises aujourd'hui, notamment la peine des travaux forcés qui est abolie et supprimée.
Et puis dans l'affaire Constant Mutamba, notez que plusieurs médias annoncent que le ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé sa démission au président Félix-Antoine Tshisekedi à l'issue d'un entretien qui aurait duré près d'une heure, précise de leur côté des sources proches du palais et de la nation. Les mêmes sources renseignent que Félix Tshisekedi a accepté cette décision. La démission de Constant Mutamba intervient quelques jours après que l'Assemblée nationale a autorisé le procureur près la Cour de cassation à engager des poursuites à l'encontre du ministre de la Justice pour des détournement présumé des fonds publics. Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, le centre de santé de Kainama, situé à une centaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni, fait face à de sérieux problèmes de fonctionnement depuis plus de 6 mois. C'est notamment le manque de médicaments ou d'appui du gouvernement et aussi l'insolvabilité de la population due à sa vulnérabilité. L'infirmier titulaire de cette structure sanitaire lance un cri d'alarme au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires. Marc Marofimbo.
L'infirmier titulaire du centre de santé de Kainama parle des véritables calvaires que vit sa structure médicale. Ici, plusieurs cas de malaria, de diarrhée et de paludisme sont enregistrés, mais faute de médicaments, la prise en charge des malades est insuffisante. Les femmes enceintes fréquentent de longues distances jusqu'à Tchabi et Boga, dans le territoire d'Irumu voisin, où la gratuité de la maternité est opérationnelle. La population de l'aire de santé de Kainama, constituée majoritairement des retournés, peine à trouver des moyens pour se faire soigner. Denis Mumereti Bassima, l'infirmier titulaire de cette structure sanitaire, l'unique dans la région, lance un cri d'alarme au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires.
Le centre de santé de Kainama fonctionne difficilement parce que nous manquons l'appui des gouvernements ainsi que de l'ONG pour venir nous appuyer en médicaments et à d'autres produits qui veulent quand même nous permettre à bien fonctionner. D'abord de nous doter d'abord la gratuité de maternité sans l'aide de notre besoin urgent et aussi de nous doter de médicaments de première nécessité comme le produit qui peut nous aider à soigner le paludisme et diarrhée ainsi que pneumonie.
Denis Mumbere précise que le dernier appui en médicaments et matelas à cette structure sanitaire par l'église Ushindi Ministry en provenance de la ville de Bouni en Ituri remonte à une année. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Retour dans le Grand Katanga, baisse de production agricole dans le territoire de Bukama, province du Haut-Lomami. Cette année, les agriculteurs ont récolté en deçà de la production attendue, ce qui fait redouter une crise alimentaire dans les jours à venir. D'autres détails avec Olivier Kalala, inspecteur agricole dans le territoire de Bukama. Il est joint par Jean Gandou.
La pluie a tellement diminué, surtout à la période de la floraison, que le maïs, surtout au moment de la croissance, à peu près à la période de la floraison, même, il y a une grande sécheresse de plus ou moins 2 mois. Alors, il n'y a pas eu une bonne fécondation, ainsi que la production a tellement diminué cette année chez le maïs et sur d'autres cultures. Par hectare, nous produisons à peu près 1500, 1400, 1300 kilos par hectare. Tel que, par exemple, moi, par hectare, j'ai fait que 700 kilos par hectare au minimum. Et 700, 600. Au début, ça commençait très bien. Arrivé au fin janvier, il y a eu arrêt total de la pluie. C'est presque dans tout le territoire. Beaucoup de villages ont connu cette sécheresse et n'ont pas produit. À tel point que les autres mêmes ont fait, par exemple, 200 kilos par hectare. Tout est prévu. Il y a un grand impact. Parce que celui qui a un projet dans la agriculture. Tout s'y compte. Tout sera heureux. Tout sera amour.
L'invité.
En RDC, environ 1 million de donneurs de sang pour sauver des vies. C'est l'estimation de besoin en donneurs de sang dont notre pays a besoin, affirme Dr Liliane Bouiza, directrice au Centre national de transfusion sanguine, à l'occasion de la Journée mondiale de donneurs de sang célébrée le 14 juin. Pour en parler, Dr Liliane Bouiza est notre invitée. Elle s'entretient avec Stani Diomi.
Docteur Liliane Bouiza, bonjour. Vous êtes directeur au Centre national des transfusions sanguines. Le 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale du don de sang. Et quel est le thème retenu cette année pour notre pays?
Le 14 juin de chaque année, notre pays, à l'instar du reste du monde, célèbre la journée mondiale du don de sang. Un moment fort, un moment de reconnaissance, mais aussi un moment d'appel à la conscience nationale. Le thème choisi pour cette année, tous unis par le sang, donner son sang, c'est un acte de solidarité.
Dans chaque mouvement de sensibilisation de la campagne sur le don de sang, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
En fait, notre objectif, c'est faire la promotion de dons bénévoles de sang. C'est d'apporter l'information à la population, à la communauté, sur l'importance de donner du sang. Nous n'avons pas assez de donneurs en République démocratique du Congo qui donne bénévolement du sang. Et raison pour laquelle nous nous lançons à faire des sensibilisations par-ci par-là avec comme objectif de récolter plus au maximum 200 à 250 poches de sang.
En République démocratique du Congo, docteur, le besoin en sang peut être évalué à combien de pourcents d'après vous?
Le besoin en sang en RDC est estimé environ à 1 million de dons de sang. Aujourd'hui, on arrive à collecter même 40% de ses besoins. C'est un problème sérieux que nous régorgeons au niveau de notre institution qui est appelée vraiment à répondre aux besoins. Il y a beaucoup de vies que nous sommes en train de perdre à cause de l'inaction de certains et nombreux ne sont pas sensibilisés sur ces gestes simples, nobles, mais qui sauvent de vies.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face par rapport aux dons de sang et que faites-vous pour y remédier?
La RDC fait face à des grands défis dans le domaine de la transfusion sanguine. On observe une faible culture de dons volontaires irréguliers. Ceci nous amène à dire que le nombre de donneurs réguliers demeure insuffisant pour faire face aux besoins en sang. Il y a un besoin accru d'investissement dans la sensibilisation aux dons bénévoles du sang, dans la formation et aussi dans l'équipement dans ces secteurs. On enregistre une couverture encore incomplète des formations sanitaires en produits sanguins sécurisés. De moyens logistiques et techniques à renforcer dans nos structures. Et pour faire face à cela, nous sommes en train de mener des plaidoyers auprès de bailleurs qui interviennent dans le secteur sanitaire. Les ministères de la Santé est en train de mettre tout en œuvre pour assainir, voir comment appuyer les secteurs de la transfusion sanguine au nouveau pays. Un plan de revitalisation est en marche pour redynamiser les secteurs de la transfusion sanguine. Appuyer ces centres-là, et s'ils sont opérationnels correctement, nous allons vaincre ces défis.
Avez-vous un message à adresser à la population congolaise en rapport avec cette journée?
Aujourd'hui, je tiens à rendre un hommage appuyé aux donneurs de sang à travers tous les territoires nationaux. Grâce à votre générosité, des millions de vies ont été sauvées. Vous êtes les artisans silencieux de l'espoir. Vous êtes la preuve vivante que la solidarité peut s'exprimer par un simple geste, tendre le bras pour sauver un inconnu. Je voudrais aussi remercier le gouvernement, le partenaire technique et financier, les organisations de la société civile, tous ceux qui s'engagent à nos côtés dans cette mission vitale. Mais il nous faut aller plus loin. En tant que Centre national de transfusion sanguine, nous renouvelons notre engagement à renforcer les collectes du sang dans les provinces, moderniser nos centres de transfusion, améliorer la traçabilité et la qualité du sang transfusé, former davantage de professionnels qualifiés et surtout mobiliser chaque citoyen congolais autour de la culture de dons volontaires et réguliers.
Docteur Liliane Bouiza, je rappelle que vous êtes directeur au Centre national de transfusion sanguine. Nous vous disons merci.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en onde par Alain Goy. Le tout sous la coordination de Élisée Chikota, supervisée par Martin Sebujangwe. Merci à tous de nous avoir suivis.